aborder ce soir la dernière séance de clôture du séminaire sur la Tshuva. Et je regrette que mon état de santé m'ait empêché de suivre toutes les activités, mais j'ai pu quand même assister à la première séance qu'a donnée le professeur Benavros. Et j'aurais à me référer comme point de départ à un certain nombre d'indications qu'il nous a données. Enfin, pour ceux qui ont assisté, c'était dimanche soir, vous aurez certainement cela en mémoire, je le rappellerai pour les autres. Et je vais prendre immédiatement l'intitulé de l'étude de ce soir, qui était formulé ainsi, « Repentir, revenir, retour, les tentations de la marginalité ». Il y a donc deux points dans cet exposé que je voudrais essayer de vous expliquer d'abord très brièvement. En introduction, le mot de Teshuvah, que l'on a l'habitude de traduire par « repentir », et qui a premièrement ce sens fondamentalement, vient d'une racine hébraïque, chou, qui signifie revenir, premier sens, ou donner une réponse, deuxième sens. Vous n'avez pas la signification du mot tshuva, une réponse à une question, dans cet intitulé, mais c'est la même racine. Et j'essaierai de m'expliquer donc sur le choix de ces termes en français qui exprime trois nuances du mot de tshuva dans le sens de repentir, mais en se référant à la signification de l'étymologie même de la racine, et ce qui nous donnera une première définition de la conception de la catégorie du repentir par rapport au problème de la définition du temps selon les catégories de la pensée juive, disons de la tradition juive. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que le terme de Teshuva dans tout le Mikra ne se trouve que deux fois. Une fois, dans un récit qui concerne l'histoire du prophète Samuel, et une fois du roi David, et dans ces deux cas, le mot de Teshuvah dans le substantif signifie le retour chez soi. Par exemple, je vous donnerai simplement une première référence, le verset concernant Shmuel, ou Tshuvato Aramata. Il est revenu à la maison, littéralement. Et donc, vous avez ces trois termes, repentir en ce qui concerne de la Tshuvah, lorsqu'il y a eu faute, revenir à l'état antérieur d'innocence de la conscience, avant la faute. Le revenir lui-même, c'est le fait que, pas seulement il y a regret, et donc décision de ne pas revenir sur cette faute, sur un point du comportement de la moralité. J'essaie de récapituler les définitions que vous avez eues depuis le début de la semaine, et d'en faire, disons, si vous voulez, un faisceau de signification. Mais lorsque c'est l'être tout entier qui revient à une identité qui avait été perdue globalement par rapport à un certain statut d'identité d'être. Je veux dire que vous avez là deux niveaux qu'il faut bien distinguer, bien qu'ils soient très liés. La teshuva, repentir d'une faute ponctuelle. Et d'autre part, la teshuva, le revenir, je ne suis pas encore au retour, le revenir à l'identité antérieure qui avait été globalement perdue lorsque l'on a rompu le lien avec l'identité idéale de telle ou telle manière d'être homme, en ce qui concerne Israël, l'identité selon la Torah, que nous allons prendre comme postulat. Donc il y a bien ces deux dimensions, si vous voulez, dans la signification du mot de tshuva, repentir par rapport à tel comportement qui avait dévié des normes, revenir lorsque c'est le sujet lui-même qui s'était dénaturé dans un dévoiement par rapport à son statut d'identité globale, dans, en ce qui nous concerne, l'être juif, dans sa définition idéale. Mais voilà qu'il y a cette troisième dimension qui est le retour, beaucoup plus que revenir, et qui, dans cette idée de retour, je voudrais mettre une dimension géographique pure et simple. C'est extrêmement relié à ce que nous enseigne le texte fondamental qui parle de la tshuva comme mitzvah, avec tous les problèmes de discussion entre les poskim, les décisionnaires, auxquels le professeur Vos avait fait allusion dimanche soir, et que nous avons étudié d'ailleurs dans d'autres années. Est-ce qu'il y a une mitzvah, un commandement d'obligation particulier, ponctuel, à ceux qui portent sur la tshuva? Est-ce qu'il y a une chova, obligation de la tshuva? C'est positivement la plupart des décisionnaires ont dans leur code une des mitzvot de la Torah, une des 613 mitzvot de la Torah, c'est la mitzvah de faire tshuva s'il y a eu faute. Alors que Maïmonide, et il n'est pas un cas particulier, c'est tout un courant, mais c'est surtout lui qui l'a formulé, Maïmonide pense qu'il n'y a pas de place dans les 613 obligations de la Torah pour une obligation qui serait la tshuva. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il y a là un comportement connaturel à la conscience du tzaddik, de celui qui avait une fois accepté la loi, et que le commandement positif que la mitzvah porterait sur le vidouille. Le professeur Gross avait dit la vidouille parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il semble que ce soit un terme masculin, le vidouille, l'aveu, c'est-à-dire de dire quelle avait été la faute, ce qui authentifie la tshuva. Alors je dirais peut-être déjà très rapidement, la position de Maïmonide, ce n'est pas l'objet de l'étude ce soir, c'est que Maïmonide a un grand principe dans la structuration du code tel qu'il nous le transmet. C'est le fait que la Torah ne légifère pas là où il y a comportement naturel. Mettez ce terme de naturel entre guillemets, nous allons avoir une collision de concepts tout à l'heure sur le terme de naturel en français. Mais, je veux dire, lorsque il s'agit d'un comportement humain inscrit dans la nature de l'homme, il n'y a pas place pour une obligation venant de la Torah, pour une raison fondamentalement élémentaire, très simple à comprendre. C'est que pour répondre à une obligation, il faut être libre. Or, il n'y a de responsabilité que là où il y a liberté. Il peut y avoir responsabilité atténuée. Il y a des degrés de liberté. À la limite, c'est un jeu de mots, il y a des responsabilités exténuées. Mais enfin, ça commence par être atténué. Mais nous sommes toujours plus ou moins quasiment libres et toujours candidats à se libérer. Mais le postulat de ce principe de Maïmonide, c'est qu'il ne peut y avoir de responsabilité que là où il y a liberté. Or, s'il s'agit d'un comportement qui est inscrit dans la structure de la nature humaine, il n'y a pas liberté. J'essaie de donner un exemple très simple. La Torah, vous ne trouverez pas dans la Torah un commandement qui ordonne de manger. Tout simplement parce que nous ne sommes pas libres de ne pas manger. Par contre, et c'est d'ailleurs la définition formelle de l'ensemble des mitzvot en tant que forme, dans le sens un peu que ce terme de forme, de formel, a dans l'expression philosophique, surtout dans la philosophie de Kant, la forme du devoir, l'impératif formel. C'est la Torah légifère comment manger, la forme du comportement de manger. Mais la truna, je veux dire le comportement lui-même, parce qu'il s'inscrit et s'enracine dans une tendance naturelle, n'est pas libre, et par conséquent la Torah ne légifère pas sur un comportement auquel l'homme est obligé de par sa nature. Et donc, tout se passe comme si Maïmonide considère que le comportement de repentir n'est pas libre chez l'homme. Vous voyez le paradoxe. Et par conséquent, la Torah n'impose pas d'avoir à se repentir, mais elle impose une authentification du repentir dans l'aveu. Là, à ce niveau-là, il y a liberté de la conscience, avouer ou ne pas avouer. Alors je dirais donc quelques termes sur ce point de l'analyse, mais nous avons toujours en mémoire que notre premier problème d'élucidation sémantique, si vous voulez, c'est la différence de niveau de sens entre repentir, revenir et retour. Et je suis encore sur le bord de la troisième analyse, le retour. En laissant de côté, ça peut faire l'objet d'une autre étude, la notion de réponse, qui est aussi inscrite dans le terme hébreu de Teshuva. Il me suffira de dire très rapidement que l'étymologie française peut nous aider à comprendre le lien entre répondre, réponse et repentir. Étymologiquement, c'est l'idée de responsabilité. Répondre, ça veut dire être capable d'être responsable, pouvoir répondre de quelque chose. Et c'est que l'analyse de Maïmonide que je vais essayer d'interpréter par rapport à notre sujet, c'est-à-dire vous ne trouverez pas dans les sources de Maïmonide l'analyse telle que je vais essayer de la formuler. C'est que si une conscience a été une fois sensible au devoir, à l'obligation, à la valeur, C'est donc que dans sa nature, si j'ose dire, entre guillemets, elle est de l'ordre du tzaddik. Qui est le tzaddik? C'est celui qui est sensible à la loi. À la loi en tant que qu'elle est souveraine au nom des valeurs sur ma liberté. Et il peut arriver dévoiement, trébuchement, faute. Mais c'est la faute d'un tzaddik qui, dans son fond profond, intérieur, même si c'est dans le refoulé du subconscient, reste ce sujet de la moralité qui, par nature, est sensible à la valeur qui s'impose à lui, dans telle ou telle obligation ponctuelle, ou dans l'attitude générale du tzaddik qui est d'être le sujet de la moralité, acceptant la loi a priori, quelles que soient ses difficultés. Ses difficultés, donc, ses erreurs possibles, ses fautes possibles. À la limite, je dirais, il n'y a que le tzaddik. Le français me gêne, il ne s'agit pas de tzaddik, il s'agit de tzaddik. Il n'y a que le tzaddik qui fait les fautes. Ce n'est pas un paradoxe, Ken. Le rachat, c'est autre chose. Mais il y a d'ailleurs un verset pour cela, qui est Adam en tzaddik baret, sacher ya seto velo yecheta. Je referme la parenthèse, ça ne mènerait trop loin. C'est-à-dire, la notion de faute, du point de vue de la Torah, c'est toujours la faute d'un tzaddik. Faute quelqu'un pour être capable de fauter. Ne prenez pas ça comme un paradoxe. D'ailleurs, mais du dedans de cette remarque, ça veut dire, si la faute, c'est la faute d'un tzaddik, alors, et là c'est Maïmonide qui parle, on peut lui faire confiance que de lui-même, il finira par revenir sur sa faute. C'est-à-dire, la conscience d'un tzaddik ne le laissera pas en paix tant jusqu'à ce qu'il revienne sur ses actes. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez que l'explication, finalement, est fondamentalement très simple. En fait, c'est, et j'ai souvent l'habitude de dire, que l'enseignement de Maïmonide est très aristocratique et très élitiste. C'est vrai en principe pour les gens normaux. Mais ce n'est pas évident que tout un chacun soit normal à ce niveau-là. Ça veut dire que si nous étions normaux, alors on comprend ce que Maïmonide veut nous dire. La Torah n'a pas à vous imposer une obligation. Si vous avez fait une faute, repentez-vous. Ça va de soi. Est-ce que c'est clair pour l'explication de Maïmonide? Seulement, la Torah légifère sur la forme qui authentifie le repentir, c'est-à-dire l'aveu. En ce qui concerne le troisième terme, et c'est ce qui fera la deuxième partie de l'exposé, eh bien, il s'agit du retour géographique. En termes géographiques, je veux dire. Tout se passe comme s'il y a un niveau de la faute qui est un exil de la conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement ici un parallèle d'analyse purement abstrait. C'est selon la Torah une réalité même. C'est pourquoi j'ai cité tout à l'heure, et nous allons nous y référer, le texte fondamental de la Torah qui parle de la Tshuva et qui en parle entremêlé avec un autre sujet qui, pour la conscience moderne, semble très différent, très loin du problème du repentir, et qui est le problème du retour en Eretz Israël. C'est-à-dire, l'équation exil-retour faute, repentir, c'est exactement dans les mêmes catégories, dans les mêmes versets, entremêlés dans l'enseignement de la Torah. Alors, ne croyez pas du tout que c'est orienté idéologiquement, ce parallèle que je vous fais, et qu'il s'agirait d'une Torah sioniste. C'est la Torah qui parle comme ça. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez là un parallèle très précis, la faute est un exil, le repentir est un retour. Or, comme je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs ceux qui vivent fondamentalement, profondément, existentiellement l'aventure de la faute et l'aventure du repentir expérimentent cela, que la faute nous met en exil de nous-mêmes et que le repentir nous permet de nous réintégrer en termes de retour. C'est pourquoi je le disais, ce sont en termes de sont des termes géographiques qu'il faudrait introduire dans ce que le professeur Gross appelle le champ de la conscience. Et effectivement, le mot, le substantif teshuvah n'est jamais employé en hébreu dans la Bible que pour dire revenir chez soi, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et alors, on pourrait faire cette analyse simplement par allusion, en essayant de montrer qu'il y a là une rencontre entre deux perspectives, la faute, le repentir, l'exil, le retour. En réalité, j'ai essayé de vous montrer assez rapidement quand même, parce que c'est quand même pas le fond de la première partie du sujet encore, que la Torah parle ainsi. Et nous le retrouverons assez rapidement. La première partie de l'analyse, je voudrais la consacrer à ce qui a été d'ailleurs le point d'ouverture de l'enseignement du professeur Gross dimanche soir, c'est-à-dire la difficulté du comportement de la Tchoua. En quoi la Torah nous donne un chidouche, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, que ce que j'appellerais la pensée naturelle ne peut pas appréhender par ses propres forces. Le comportement du repentir ne fait pas partie de la pensée naturelle, ne fait pas partie des comportements humains livrés aux forces de l'homme. Je veux dire, de l'homme livré à ses propres forces. C'est la Torah qui nous enseigne que le repentir est possible. Face à quelle impossibilité de la pensée naturelle, de l'expérience naturelle, qu'est-ce qu'il y a d'invraisemblable dans la conduite du repentir qui fait que, naturellement, l'homme n'a pas cette notion en lui. Elle n'est ni innée, ni acquise par la culture habituelle. Elle est introduite dans la conscience de l'homme par la révélation prophétique. Alors, cette révélation prophétique a eu lieu il y a très longtemps. Et comme vous le savez, l'enseignement de la Bible, la prophétie hébraïque, a diffusé dans beaucoup de cultures et de civilisations. Ce qui fait qu'à la limite, en Occident, tout se passe comme si on est devenu familier à la notion de repentir au point de tomber dans cette erreur de croire que c'est une notion naturelle. En réalité, ce qu'il faut d'abord réintégrer, c'est qu'il s'agit là d'une invraisemblance pour la conscience naturelle. Voici donc l'introduction que je voulais présenter ou proposer concernant les catégories que nous allons étudier. Je vais faire une toute petite parenthèse, étant donné qu'il est extrêmement chaud. Est-ce qu'il vaut pas mieux ouvrir la porte quand même, oui? Et puis peut-être vous brancher l'ventilateur parce que je vais dans quelques temps, je risque de devenir un dramaturge anglais célèbre, Shakespeare. Alors, je reviens. Voilà. Alors, écoutez, ce que j'avais préparé à ce sujet, c'est l'analyse de trois dimensions de ce que j'appellerais le caractère invraisemblable de la notion de tshuva pour la pensée naturelle. Il y a d'abord une invraisemblance d'ordre moral même, ensuite une invraisemblance d'ordre logique, j'en parlerai assez brièvement, certains d'entre vous sont certainement déjà familiers à la compréhension en hébreu de ces catégories, et d'autre part, une impossibilité plus profonde encore que morale et logique, que j'appellerais une impossibilité métaphysique, et sur laquelle se branche un enseignement très important du prophète Jérémie. Et ça me permettra de retrouver une des dimensions de l'enseignement du professeur Gross, qui avait analysé la formule de l'aveu, Ana, Hashem, Hatati. Il avait expliqué, vous en souvenez ce qui était là, que lorsqu'on parle, on parle à quelqu'un. Or, ce quelqu'un est nommé dans l'aveu, c'est devant Dieu que l'on dit « J'avoue que j'ai fauté, hatati, abiti, pacharti » et nous verrons que seul Dieu peut introduire une possibilité dans cette impossibilité naturelle, et nous verrons que c'est relié au problème de la mémoire. Bien. Alors, première difficulté, elle est d'ordre moral. Pour la pensée naturelle, et je dis souvent que la pensée naturelle, ça ne veut pas dire la pensée primitive dans le sens négatif. Ça ne veut pas dire la pensée prélogique dans le sens des sociologues, par exemple. La pensée naturelle peut être très sophistiquée. Elle peut être la pensée philosophique la plus grande, la plus élaborée. Mais elle a pour postulat que c'est l'homme qui pense, qu'aucune voix ne lui a parlé du dehors de la conscience humaine. C'est-à-dire, la pensée naturelle a pour postulat qu'il n'y a jamais eu de prophétie, qu'il n'y a jamais eu de révélation, dans le sens du postulat que j'ai pris tout à l'heure, que cette notion, comme d'ailleurs toutes les notions de la Bible, la pensée naturelle ne les possède pas par nature. Elle les a apprises de la révélation prophétique. Et quelle que soit la familiarité qui fait croire à la connaturalité, si vous voulez, de ces notions, il y a là une erreur fondamentale. C'est un problème d'ailleurs qui préoccupe beaucoup les maîtres contemporains, parce que, je le dis en passant, mais ça me semble très important, ça se relie d'ailleurs à notre sujet aussi, quand même, la redécouverte des sources juives dans le temps contemporain, avec toute une espèce d'explosion d'œuvres, de traductions dans les langues de communication de concert, traduction de l'hébreu traditionnel dans des langues comme le français, l'anglais, tout ce que vous voudrez, ou l'hébreu moderne d'ailleurs aussi, tout un énorme phénomène d'enseignement au nom des sources de la Torah qui, il y a encore une cinquantaine d'années, était complètement clandestin. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des mémoires de avant 50 ans, il n'y avait rien. Subitement, une explosion. Et où on s'aperçoit, en tout cas, c'est un diagnostic qui est déjà évident à faire dans le champ de la culture juive en francophone, disons française, en particulier en France, d'une tentative d'annexion des contenus de la sagesse prophétique à la problématique philosophique, dont sont responsables les auteurs juifs eux-mêmes. Et parfois, il s'agit d'auteurs juifs croyants, qui se trompent de bonne foi, si vous voulez. Je ne crois pas qu'on puisse se tromper de bonne foi à ce niveau-là. On ne prend pas un mathématicien en erreur de calcul élémentaire. un grammairien ne fait pas de faute d'orthographe. Alors, si un grammairien fait une faute d'orthographe, c'est qu'il n'est pas de bonne foi. Ou bien c'est qu'il n'est pas grammairien, donc il n'est pas de bonne foi. Mais, en tout cas, pour revenir à notre problème, je veux dire, il y a une espèce de tentative d'annexion à la problématique philosophique des contenus d'analyse de la sagesse hébraïque, de la sagesse rabbinique, qui est l'exégèse de la prophétie. Et qui tente à, par exemple, dans notre problème, à présenter la notion de tchouva pas du tout comme un chidouche, un renouvellement de sens qui, de l'extérieur de la conscience humaine naturelle, est apprise par la révélation prophétique, mais d'une notion de la pensée naturelle, comme je disais. Je referme la parenthèse. Alors, première difficulté d'ordre moral. Eh bien, il y a, semble-t-il, une injustice dans la possibilité du repentir pour une conception de la morale qui serait celle d'un légalisme formel absolu. Au nom de la loi, on ne comprendrait pas qu'il y ait cette complaisance qui, à la limite, est une sorte d'injustice dans le sens étymologique, mise en congé de la justice, qu'il y a eu faute, et puis voilà, il suffirait de se repentir pour que tout se passe comme s'il n'y avait pas eu faute. Il y a là un scandale moral. Et beaucoup de consciences morales, encore une fois, d'ordre de la pensée naturelle, ont refusé l'éventualité de la vraisemblance du repentir comme invraisemblable moralement. Ça choque leur conception de la justice. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? J'ai l'habitude de citer une formule qui définit le droit latin, le droit romain, pardon, qui était en latin, « dura lex, sed lex ». Ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Et devant la loi, il n'y a pas de repentir. On ne discute pas avec la loi. Il y a eu faute. Gamardou. Sagour. Fini. Fermé. L'éventualité du repentir, donc, ne fait pas partie de la pensée naturelle, premièrement, pour une cause de scandale moral. Ça a l'air paradoxal. Mais parce que nous sommes juifs, ça nous paraît comme paradoxal. Parce que nous sommes élevés dans la tradition biblique, même parfois culturellement, inconsciemment. Mais pour un juriste romain, ça va de soi. Et vous avez j'en ai parlé à propos d'autres sujets, dans la civilisation occidentale, il y a une conception légaliste, formaliste de la moralité qui va jusque-là, et qui risque d'envahir d'ailleurs la société israélienne à travers des conceptions humanistes, entre guillemets, mais d'inspiration de la culture occidentale, et qui ne s'enracine pas dans la morale juive traditionnelle, c'est-à-dire la légalité de la lettre de la loi. Je pense surtout à des position idéologique, politique, de type humaniste, non relié à la Torah. La Midrash Din, comme nous disons en hébreu, refuse la notion de repentir. Il est possible que ceux d'entre vous qui ont suivi le cours du Rav Atoun sur Jonas, vous retrouvez là une de ses analyses, une des analyses qu'il vous a présentées. Yona s'appelle Yona ben Amitai, et étymologiquement en hébreu, Amitai se rattache au mot de Emet, qui veut dire la vérité. Et s'il s'agit d'un prophète qui prophétise au nom de la vérité absolue, il ne peut pas admettre que le repentir soit possible. C'est pourquoi lorsque Dieu lui demande de prophétiser à Ninive pour exhorter au repentir, il refuse. Il dit si le Dieu de la justice absolue ne peut pas admettre le repentir. Alors, j'interprète, hein, je n'ai pas assisté à cet enseignement, je ne sais pas comment il vous a été présenté, mais j'interprète, c'est-à-dire que tout se passe comme si Jonas aurait dit j'ai une illusion, je crois que Dieu m'a demandé d'aller leur parler de repentir, c'est pas possible. Alors je préfère m'en aller, comme ça je serai pas en faute. Oui, à peu près le problème. C'est-à-dire, si j'ai une conception de la justice du point de vue émet absolu, la notion de repentir est en collision, elle choque. Pourquoi ? Alors ce serait trop facile. Il y a eu faute et il suffirait de se repentir pour qu'on soit pardonné, mais l'acte a eu lieu. Alors la réalité a eu lieu. Je referme cette parenthèse sur Yona. Et nous retrouverons cela, que tous les textes concernant la possibilité de repentir nous mettent devant Hachem, pas devant Elohim. Bon, alors là, nous avons une difficulté de vocabulaire. Pour ceux qui sont déjà familiers à ce vocabulaire, vous savez que la notion de Dieu, lorsqu'elle est exprimée par le terme de El, Eloka, Elohim, signifie Dieu garant du fonctionnement des lois de la nature. Et à travers précisément cette dimension de la miséricorde, c'est-à-dire de la légalité de la loi, et devant Elohim, il n'y a pas de place pour la tshuva. Alors que c'est devant Hachem que la tshuva est possible. C'est-à-dire la révélation du visage de Dieu au-delà et plus haut du visage de la miséricorde. C'est le visage de la miséricorde rahamim. Devant la miséricorde rahamim, le repentir est possible. Mais devant la miséricorde, les athées de tout à l'heure auraient raison de dire, mais c'est un scandale moral, la loi refuse l'éventualité du repentir. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est clair jusque-là? Deuxièmement, il y a une difficulté, une impossibilité d'ordre logique. Là, nous allons retourner à l'étymologie de la notion de tshuva. Ça implique que toute une conception du temps, où on peut revenir en arrière dans le temps, pour faire, comme nous disons en hébreu, le tikkun, la réparation de ce dévoiement, d'avoir dévié du droit chemin, les mots ayant leur sens simple. C'est d'ailleurs une image que j'emprunte à Maïmonide, la voie droite, Derech HaYeshara. Qu'est-ce que c'est que la faute? C'est d'avoir dévié, soit à droite, soit à gauche. Et par conséquent, il s'agirait de pouvoir revenir en arrière dans le temps de la conscience au point du temps où il y a eu ce dévoiement pour reprendre la voie droite. Ou même, d'ailleurs, c'est pas peine que je me le pouvais visualiser, même, vous voyez, la voie droite, et puis on a dévié. Même sans avoir à revenir en arrière, mais pouvoir, même horizontalement, revenir sur la voie droite. La chouve, revenir de là où on avait dévié. Alors, pour cela, cela implique qu'on puisse aménager une relation au temps qui soit celle d'un temps réversible. Or, le temps naturel, le temps pour la pensée naturelle, est connu comme irréversible. Donc, s'il n'y a pas révélation prophétique, la notion de teshuva étymologiquement est impensable. Parce que pour celui dont la conscience fonctionne d'après les normes naturelles, encore une fois, l'idée même d'un retour dans le temps pour que le tikkun soit possible est impensable. Alors je vous le dirai très rapidement, c'est que seul l'hébreu a une règle de pensée qui correspond à cette possibilité de la tshuva. Dans aucune autre langue, on ne trouve une règle de grammaire où l'inversion des temps passé, futur est possible. Or, c'est le vavahipur qui est le secret de la tshuva. Ça veut dire, en hébreu, on sait transformer le passé en futur et le futur en passé. Or, il faut disposer de cette force de l'inversion des contraires pour que la tshuva soit pensable vraisemblablement. Tout cela est entré dans l'inconscient des langues. est entré dans l'inconscient de la pensée. Mais on comprend par là comment la conscience hébraïque était apte à accepter la loi parce qu'elle avait dans sa structure mentale, et pas seulement morale, profondément la capacité de penser que la tshuva est possible. Une pensée, une conscience, une âme à la limite, qui fonctionnerait en grec, ou à la... qui fonctionnerait à la grecque, eh bien, ne peut pas accepter la Torah. Je dirai très rapidement. Parce que si la loi nous est donnée sans la clause de la possibilité du repentir s'il y a eu faute, dans les conditions d'authenticité que la législation établira, en particulier le vidouille, eh bien, à la première faute, on est perdu. S'il n'y a pas de possibilité de tshuva, encore une fois, dans les trois sens, repentir, revenir, retour, s'il n'y a pas de possibilité de tshuva, à la première faute, on serait perdu. Alors, vous comprenez ce midrash qui dit que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde et elles ont toutes refusé. Alors, Dieu a suscité l'existence du peuple d'Israël, fabriqué de telle sorte que lui peut accepter la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et Torato. Parce que pour pouvoir être capable de recevoir la Torah, il faut être capable de maîtriser la catégorie de la tshuva. C'est, encore une fois, nous avons souvent parlé de cela, peut-être d'autres manières, c'est le mécanisme essentiel du refus de la Torah, comme instrument du salut. Parce que c'est impossible, d'une part à cause du scandale de la pensée naturelle, scandale moral, mais d'autre part à cause du scandale logique lui-même, qui fait que, tout simplement, si j'accepte que ma destinée soit jugée au nom d'une loi, et que je ne suis pas capable de savoir que s'il y a faute, il peut y avoir retour, alors je suis perdu à la première faute. Or, c'est ma nature d'être, je ne dirais pas fauteur, comme on trouverait dans le vocabulaire de la théologie chrétienne, mais peccable, c'est-à-dire capable de faute, parce que je suis libre. C'est clair, je crois que c'est pas la peine d'analyser plus. Alors on comprend l'atmosphère de ce midrash qui nous explique que seuls les Hébreux étaient capables de recevoir la Torah. Et alors, surprise, ça se voit dans une des règles de la grammaire hébraïque, parce que seul l'Hébreu est capable de convertir le passé en futur et le futur en passé. Ça a l'air paradoxal. Mais vous voyez à quelle profondeur sémantique, si vous voulez, les choses nous apparaissent simples. Alors il y a plus. Il y a plus, et c'est ce qui me permettra d'achever la première partie, c'est-à-dire de la mise en évidence des difficultés du comportement de la tshuva comme tel. Il y a plus, il y a une impossibilité d'ordre, si j'ose dire, d'ordre métaphysique, qui vient du fonctionnement de la mémoire. Alors pour cela, ce que j'avais préparé, c'est un texte de Jérémie, à propos duquel j'ai eu l'occasion, mais il y a assez longtemps, vous en souvenez sûrement pas, de donner une émission à la radio, la veille de Rosh Hashanah d'ailleurs, et qui est le premier verset du chapitre 2 de Jérémie, que je vais vous lire, et vous allez retrouver un des versets que l'on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, et vous verrez pourquoi. Vous savez que Rosh Hashanah est appelé dans le vocabulaire de la Bible, dans le Mikra, Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Je ne vais pas traiter du problème des intitulés des jours du calendrier dans le langage de la Torah et dans le langage du Talmud. C'est un problème en soi. Vous savez que chaque fête a au moins deux noms, un que lui donne le Mikra, la Bible, la loi écrite, et un que lui donne la loi orale. Par exemple, Rosh Hashanah, pour le Mikra, c'est Yom HaZikaron. C'est clair. Yom HaZikaron, ça veut dire le jour du souvenir. Il y a une mémoire totale. Nous sommes habitués à définir Rosh Hashanah par Yom HaDin. Ça, c'est la Torah Shebaalpé, le jour du jugement. Le lien doit nous apparaître de façon très simple, parce que nous sommes jugés par la mémoire. Qui nous juge? C'est cette mémoire totale qui a enregistré ce qui s'est passé dans le temps. Il y a une mémoire totale et c'est elle qui nous juge. Nous sommes jugés par la mémoire. Je pourrais le répéter de différentes manières, mais c'est pour essayer de mettre en évidence le fait que Yom HaDin, Yom HaZikaron, c'est la même chose. Yom HaDin, c'est dans le langage de la Torah Shebaalpé, Yom HaZikaron, c'est dans le langage de la Torah Shebishtar. Or, précisément, à cause de la mémoire, il semble qu'il y ait une impossibilité métaphysique. Parce que la mémoire totale ne peut pas oublier. Voilà, là nous avons un des points principaux de l'étude que je voulais vous présenter ce soir, c'est-à-dire ce qui fait que la tchouva est quelque chose de très difficile. Avant d'arriver à la deuxième partie, que j'ai déjà un peu élaborée tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire repentir, revenir, retour. Et le verset dit ceci, vous allez le retrouver. Zachartilach, lach, hesed neuraïch, ahavat kelulotaïch, lechter acharai bamidbar, beeret lo zeroa. Je pense que si vous avez prié à Rosh Hashanah, vous vous souvenez que c'est dans la prière de Rosh Hashanah. Alors je traduis. J'ai le texte sous les yeux. Vahi devar Hashem elai lemor, je commence au deuxième chapitre de Jérémie, et la parole de Hashem, retenez bien toujours Hashem, nous verrons pourquoi, me fut adressé les mots pour dire Halor vekarata beozni Yerushalayim, il faut aller et tu invoqueras aux oreilles de Jérusalem. Cette formule en hébreu, Halor vekarata, c'est une action continuée qui ne doit jamais s'interrompre. Halor vekarata, il faut faire ça constamment. Et parler aux oreilles de Jérusalem, les mots en disant Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Zachartila tila chesed neoraïr, je me suis souvenu pour toi, chesed neoraïr, chesed, vous connaissez le mot de la grâce, et ça veut dire de lorsqu'on fait un acte gratuit, la gentillesse absolue. Un acte de chesed, c'est un acte qui est vraiment l'acte gratuit par excellence, et l'acte gratuit par excellence, c'est effectivement l'amour. Mais ici, c'est le terme de chesed qui est rappelé. Tu as fait quelque chose, c'est Dieu qui parle à Jérusalem, c'est-à-dire à Israël. Tu as fait quelque chose que tu as fait de toi-même, c'est chesed. Donc vous comprenez cela en hébreu, okay? Le chesed que tu avais ne'oraïr dans ta jeunesse, ahavat kilulotaïr, l'amour que tu avais dans tes fiançailles. Les fiançailles, c'est le stade d'avant le mariage. L'echter, alors comment s'expliquer? L'echter bamidbar, lorsque tu allais dans le désert, Aharai, l'Echtech Aharai Baminba, lorsque tu allais derrière moi dans le désert, Beret Lozerura, dans une terre non ensemencée, où rien n'était, il n'y avait aucune promesse de fertilité, de fécondité, donc, stérile. Donc. Alors ça veut dire, Dieu dit à Israël, vous avez un mérite exceptionnel. Vous êtes ceux qui m'avaient suivi alors qu'il n'y avait aucune promesse, aucun commencement d'accomplissement de promesse. Et est-ce que c'est clair ce mérite-là, Ken? Alors, voici ce que je voudrais expliquer à ce sujet. La difficulté qui vient de la mémoire de l'homme, c'est qu'après la faute, étant donné que la mémoire n'oublie jamais, il y a dans la mémoire une connaissance de soi-même où le bien de la vertu que l'on avait et le mal de la faute qui est arrivée sont entremêlés. C'est-à-dire, après la faute, la mémoire de l'homme est intoxiquée. Comment dire, je cherche un terme en français. Elle est, un terme médical, elle est
contaminée.
C'est bien clair. Et c'est irréversible. Je ne peux pas faire que dans mémoire, il n'y ait pas cet amalgame entre la pureté que j'avais dans mon enfance, dans mes fiançailles, et puis ensuite, l'impureté qu'il y a eu après la faute. La mémoire est à peu près, c'est plus qu'une image, mais je le donnerai comme image, à la manière de l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangé. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez, cette interdiction qu'il y avait de manger de ce fruit-là, là où le bien et le mal sont mélangés. Alors, la mémoire d'après la faute, c'est le paradis perdu. Ça veut dire, l'homme sait de par sa mémoire, qui ne reviendra jamais à l'état d'innocence à cause de la mémoire. Et vous voyez quel est le paradoxe, okay? C'est la mémoire qui permettrait que l'on revienne dans le temps perdu pour en faire la réparation, mais à cause de la mémoire, on sait que jamais on sera revenu d'où on était parti, comment on était parti. Est-ce que c'est clair les mots que j'emploie, okay? Alors il y a, si j'ose dire, un empêchement d'ordre apparemment métaphysique. Une fois la faute faite, le paradis perdu, c'est irréversible. Pourquoi ? Parce qu'on a goûté du bien et mal mélangé. Et à partir du moment où le bien et le mal est mélangé, encore une fois, c'est le drame de la mémoire, eh bien, on sait qu'on ne pourra jamais revenir, redevenir ce qu'on en avait été avant la faute. Et il y aurait là une, comment dire, une impossibilité métaphysique. C'est clair jusque-là ? Alors c'est à cela que Jérémie répond. Et vous voyez pourquoi il faut une exhortation continuée. C'est invraisemblable. On est bien au-delà de l'invraisemblable moral de la philosophie morale des Romains. Quel scandale moral. La justice n'admet pas au-delà de, du scandale logique des Grecs. Quel pour les Grecs, le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. Et le présent, c'est le présent. Si vous avez fait du grec, vous savez à quel point c'est une des langues anciennes où il y a le plus de différence de nature entre le passé, le présent et le futur. Ils appellent leur passé l'aoriste. Et l'aoriste second, c'est le plus que parfait. En français, on dit le passé composé. Mais il faudrait dire le passé décomposé. Irréversible. Et alors, j'ai l'habitude de citer comme exemple l'obsession des logiciens grecs. Socrate a vu la ciguë, c'est fini. Okay? Ça s'est passé, il a trépassé. C'est fini. Okay? C'est-à-dire, c'est irréversible. Et oui, quelle mentalité il y a là ? La mentalité romaine. La loi prime la morale. La loi légale prime la morale. Repentir, connaît pas. On ne discute pas avec la loi. Mentalité grecque. La logique interdit de rendre ça pensable. Et encore une fois, si je le répète, et il faut le répéter, c'est parce que pour nous, juifs, l'imprégnation hébraïque, eh bien, ça va de soi que la vraie justice et que le repentir soient possibles. Ça va de soi que le repentir est possible logiquement. C'est la base même de notre vie spirituelle. Mais c'est parce que nous sommes des Hébreux ou des descendants d'Hébreux. Ce que je voudrais dire, je ne sais pas s'il y a parmi vous des spécialistes de la mentalité romaine ou grecque, c'est que pour un Romain ou pour un Grec, ce que je dis là est vraisemblable, c'est absolument invraisemblable. C'est pour un Juif qu'il y aurait difficulté à penser l'invraisemblable. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ? Top. Alors, mon rôle, ce n'est pas de vous convaincre de l'évidence romaine ou grecque, mais de vous dire qu'elle existe et qu'est-ce qu'elle représente. Eh bien, alors voilà ce que dit le prophète. Zachar tila chesed neoraïch. Toi, tu ne peux pas te rappeler de ton innocence. Moi, je peux. Ça veut dire qu'il y a au-delà de cette mémoire totale où tout est amalgamé, il y a une mémoire vraie, une mémoire juste, où les temps d'innocence étaient des temps d'innocence. Et les temps de faute sont des temps de faute, et c'est pas mélangé. Est-ce que c'est clair ? Si je veux dire, je dirais que au-delà de l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangé, il y a l'arbre de la vie. Et dans l'arbre de la vie, le chesed, c'est le chesed. L'ahava, c'est l'ahava. Si après, il y a eu qu'il coule, comme dit le prophète, elle a mangé, elle s'est essuyé la bouche, mais là, c'est un verset de la Bible. Akhla ou mahatot piha. Dieu peut dire à Israël, Zacharti ani lar, toi tu peux pas, mais pour toi je peux, à ta place je peux. Est-ce que vous avez vu le pshat revenir maintenant, okay? C'est-à-dire, c'est pas une chose banale que le prophète nous dit là. Fais entendre ça aux oreilles de Jérusalem, c'est Hachem qui parle. Alors que le fonctionnement naturel rend invraisemblable la teshuvah, moi Hachem, je peux te dire que grâce à ma mémoire à moi, je peux me rappeler de toi quand tu n'avais pas fait faute. Est-ce que c'est très clair ? Est-ce que c'est suffisamment clair, je veux dire ? Très clair, ce serait présomptueux, mais suffisamment, ça suffit. Alors, si c'est suffisamment clair, ça suffit pour cette analyse. Ça veut dire que c'est sérieux ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est sérieux ce qui se passe à Yom Kippour. C'est possible, c'est vraisemblable. C'est pas un jeu. C'est pas une liturgie dans le sens purement formel. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant Hachem. Hachem peut dire, quand je pense à toi dans la Midat HaChesed, c'est dans la Midat HaChesed que je pense à toi. Je sais que tu sais qu'après il y a eu les manquements au din, etc. Bon, mais ça oublie. Moi je me rappelle pour toi ce que, dont toi tu ne peux pas te rappeler, c'est-à-dire l'état d'innocence quand il n'y avait qu'innocence. Donc le paradis est retrouvé. Est-ce que c'est clair le problème ? Bien. Alors, j'en arrive donc maintenant, si vous voulez, à la deuxième partie de l'analyse, qui sera assez rapide, puisque nous avons déjà un peu élaboré au niveau sémantique. Oui, si vous voulez, on va faire une petite abstraction, si vous avez des questions, mais parle fort tout au monde.